C'est que tout ce processus de la galoute s'est déjà enclenché dans ce premier épisode pour qui est la vie de Jacob. On a vu un certain nombre de points sur lesquels ce sujet. Ça, c'est la première raison importante. Et la deuxième raison, c'est de montrer la nécessité de cette promesse dont on a parlé dans les cours. Chaque fois que commence l'histoire de la galoute, il est nécessaire qu'il y ait une protection particulière. C'est bien clair. Okay. Alors je continue rapidement la lecture du récit pour arriver. Le gros du récit maintenant, c'est le déroulement de l'intensification de la persécution. Je vais finir ça très rapidement. Donc nous revenons au verset principal concernant l'annonce de la galoute à Abraham, avec les différentes parties. Il y a Dehor Teda, Yézoracha, Yézolaem. Je voudrais qu'on étudie cet après-midi sur tout cela. Alors d'abord, en ligne de mire, très rapidement, on va lire la Gada jusqu'à la fin de ma vie. Et le reste, c'est vers nous, donc je lui apprécie, de cette sorte de pouvoir rapidement avoir fini. Bien. Alors donc, vous allez reprendre au verset principal. Vous avez dû remarquer cela, il y a un verset principal dont chaque partie est reprise et expliquée par rapport à, grâce à l'appui de d'autres versets. Vous avez déjà remarqué ça. Alors, le verset principal, c'est à partir de Tzimma. Quand on reprend le récit à partir de l'histoire de Jacob chez Laban. Le verset principal, c'est Shenema, Arami, Ovedabi, Vaire, Mitraïma, Vaire, Orchad, Mitraïma, Vaisham, Vaigado, Asuma. Laban araméen a voulu détruire Jacob. Avami Ovedavi, Vayere Mitraïma, mais Jacob est descendu en Égypte. Ça, on a déjà expliqué ça ce matin. Vayagor Sham, il a séjourné là-bas, Bimte Merat, séjourné et pas s'installer définitivement, vous rappelez bien. Bimte Merat, avec peu de gens. Bon, il faudrait aussi voir aussi la signification des mots hébreux. Enfin, très rapidement pour cette expression-là, Bimte Merat. Merat, ça veut dire peu. Metim, c'est le mot qui en hébreu veut dire les mortels. Et donc on se sert d'une façon générale dans la langue moderne en particulier, on dit, pas seulement moderne. Non, le mot met, c'est une fille mort, mais ici il a le sens de mortel. Ça veut dire les personnes. Comment il y a une intention particulière, c'est que dans la galoute, la famille de Jacob est appelée Métis. Bon, vous comprenez très facilement par vous-même pourquoi il est vénérable. Et il est devenu là-bas une grande nation puissante et nombreuse. Alors, on a lu les versets suivants. Oui, on est juste. Alors, je passe par là, le long une Mishnah qui est nombreuse. Et après commence le récit de la persécution. Donc vous avez le verset principal, va y avoir au Tano Amitri, va y avoir nous. Alors prenez à partir de là. Et vous suivez avec moi, on va quand même les aller. On va aller rapidement sur toute cette partie du récit de la persécution, vous l'étudiez déjà par exemple. Va y avoir au Tano Amitri, et les Égyptiens nous ont, comme on dit, faire du mal. En un seul mot, l'Église, là, nous avons maltraité. Voyons, nous, et nous, c'est humiliation, oppression. Voyons, allez, nous, à Odakasha, et ils nous ont imposé une servitude dure. Alors, de la même manière, vous verrez vous-même, en avouant maintenant l'étudier en détail, chaque partie de ce verset de base sera repris dans chaque Mishnah pour expliquer chaque expression à l'appui d'autres versets. Alors, je me borne simplement à traduire. Si vraiment il y a quelque chose qui vous intrigue, on s'arrêtera rapidement, mais je voudrais revenir à l'étude. Alors, voyez vos anonymes, et suivez tout sur le texte. Et les Égyptiens ont maltraité, que Moshe Nehema, comme dit le verset qui est au début du livre de l'Exode, Havan et Hakemalo, nous allons comploter contre lui, de peur qu'il ne se multiplie. Et les Égyptiens décident de mettre fin au danger que représenterait la présence d'un peuple hébreu trop nombreux en Égypte, Réaïaf dit Féna Mikrama, et il arriverait que s'il arrive une guerre, mais dans Sav Gamual Konehu, il s'ajouterait Dieu qui a nos ennemis, Benin Khambanu et Alamina Avet, et il lutterait contre nous et quitterait le pays. Ça, c'est le plan. La crainte des Égyptiens, c'est que s'il y a une guerre, et que la communauté des Hébreux est trop forte, trop puissante, elle ferait alliance avec les ennemis de l'Égypte et quitterait l'Égypte. Et là, il y a une première indication, c'est que il y a un contrat de travail et l'Égypte sait très bien qu'elle prie à la tâche, à la présence des Hébreux dans sa civilisation, de telle sorte qu'elle soit fécondée par cette présence. Ça, c'est le plan. Mais il y a une mesure plus profonde qui consiste à inverser complètement ce que dit cette expression vers Alam Inaharet, le sujet, ce n'est pas Israël, mais l'Égypte elle-même. Enfin, le parti au pouvoir en Égypte. Et que s'il y a une coalition contre l'Égypte, des ennemis de l'Égypte, les Égyptiens s'allieraient à cette coalition et expulseraient le pharaon et son parti de l'Égypte. Mais vers Alam Inaharet, et ils nous ont opprimés, humiliés. Kemosh Neema, comme il est dit, Yassim Wala Saremissim, ils placèrent sur lui Saremissim, des chefs de corvée, les marins à l'autre des Sibotas, afin de l'humilier par les. Comment on traduit ? Mais pardon, ok. Vaïven, il construit à Rémiskenot les villes de Grenier, les pharaons. Ça, il y a une légende qui consiste à dire que ce sont les Hébreux qui ont construit des pyramides, c'est pas du tout évident. Beaucoup de gens disent ça, ce sont les esclaves hébreux qui ont construit les pyramides. Il est possible que pendant une certaine période, ils aient aussi fait partie de ces corvées-là. Mais c'est pas évident que ce soit particulièrement les Hébreux. C'était tous les Égyptiens qui étaient esclaves pour construire ces pyramides. Et Pitomeram, c'est de l'île qui s'appelle Pitomeram. Mais là, toute cette technique, ça a été analysé très en détail par les sociologues qui ont étudié les camps de concentration, le fait d'annuler la dignité humaine par l'accroissement progressif des charges à accomplir, et il n'y a plus aucune résistance. Et cette espèce de tactique qui consiste à demander un peu plus. Et puis finalement, il n'y a plus aucune résistance et on devient complètement affermé. Exactement la technique des camps de concentration. Va y à la kasha, et ils ont placé sur nous une servitude dure, Kemosh Neema, comme il est dit, va y arriver Israël et devenir Israël. Et l'Égypte a asservi les enfants d'Israël, Befarer. Parer, c'est le mot qui veut dire parer, c'est le mot qui veut dire travaux forcés. Mais le Midrash explique Befera, encore une fois le fait qui arrive ici. Befera, c'est-à-dire avec la bouche douce. C'est-à-dire, c'est cette même stratégie qui consiste d'abord à séduire. Lorsque vous aurez un séminaire sur l'Holocauste, je suppose que vous avez déjà étudié son histoire. Bon, vous aurez probablement un séminaire au troisième trimestre. Et vous verrez par exemple ce qui est arrivé en France dans la fameuse organisation qu'on appelait l'UGIF. Les Allemands avaient fondé une organisation centrale de toutes les œuvres juives à qui ils s'adressaient directement pour obtenir toutes les corvées dont ils avaient besoin. Et alors, c'était fait avec une politesse et une civilité extraordinaire, enfin un langage civilisé, qu'elle, et puis de fil en aiguille, cette même tactique qui consistait à rassurer les gens pour finalement les mettre dans un engrenage où il n'y aurait plus aucune résistance. L'UGIF, tu as connu l'UGIF, c'était Union Générale des Israélites de France. C'est une sombre page, une sombre histoire du pays français. Et finalement, les dirigeants de la communauté étaient bien embêtés parce que ça savaient très bien que finalement, les corvées qu'ils choisissaient, c'était finalement, ils ne reviendraient plus. Mais alors, ils voulaient se persuader eux-mêmes que c'était que pour des corvées, enfin, imaginez le genre d'engrenage dans lequel, combien de fois il y a eu Enfin, je me souviens surtout des réactions en France. Cette réaction consistait à dire « Ah mais ils sont très courtois, ils sont très civilisés, ils sont très grandis. » On n'osait même plus les appeler boches, on les appelait en 14-18, on disait les occupants.
Oui, en fait.
Donc, les femmes. Fanny Mirage, c'est tout. Dans le Mirage. Le Mirage explique le mot « parer ». Le mot « parer » veut dire « pereshka », ça veut dire « travaux forcés ». Avodat parer, c'est des travaux forcés. Mais le Mirage explique cette tactique. En disant le perach avec une bouche douce. Non ? Comment on peut dire ? Oui. Ça, c'est un verset qu'il a cité. Vous avez la référence du verset en bas de page, toujours. Ça va être utilisé par vous-même, ok ? Vanitrak et Hachem et le cœur étaient doux, et nous avons crié, prié vers Hachem, Dieu de nos pères, suivez ce texte. Vaishma, Hachem et Kolenou. Et il a écouté notre voix. Oui, cette répétition, il aurait pu ne pas écouter, mais il a écouté notre voix. Vaya veronenu, et il a vu notre misère, vetra malenu, et notre travail, enfin, amal, c'est le travail pénible, vetra chassenu, et l'oppression, la pression dans laquelle on se trouve. Et c'est quoi tout cela ? Banitra, et la chaîne lokenu, et l'ogavotenu. Et nous avons crié vers Hachem notre Père, Kemoshinema, comme il a dit, Bayi, Bayami, Mavali, Maher, et il arriva dans ses jours nombreux. Bayamot, Melech Israël, le roi d'Égypte mourut, Bayamchou, Bene Israël, Mina Aouda, et les enfants d'Israël eurent un travail aggravé, c'est-à-dire littéralement, ils ne respiraient plus sous le travail. Bayitrakou, et ils ont crié, et leur plainte est montée de cette servitude vers nous. Et Hachem a écouté notre voix, comme il est dit. Et Dieu a écouté leur plainte. Et Dieu a tenu compte de son alliance, et d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de mérite propre pour que le peuple obtienne une délivrance par son propre mérite, ni par sa propre prière. Et si la prière a été entendue et exaucée, c'est pour accomplir la promesse faite au patriarche. Vous voyez donc dans quel... Je dirais d'ailleurs, toute la conscience de Pessah, c'est la délivrance compte non tenu qui est mérite ou pas. Parce que l'événement de la délivrance est à Pessah, c'est que c'est pour l'accomplissement de l'alliance, pour l'accomplissement de la promesse. Parce que les événements de délivrance se font à Tishri, alors là, c'est compte tenu du mérite et c'est compte tenu du jugement. D'une façon générale, les événements du temps de Pessah sont des événements miraculeux, spectaculaires. Les événements du temps de Tishri sont des événements dont le prix est beaucoup plus, dur. On remarque ça aussi dans le calendrier israélien contemporain. Par exemple, la guerre des six jours, c'était à Nissan. Alors la guerre du Tour, c'était à Tichy. Vous voyez la différence de cet événement. Bon, alors je finis. Vaya reprenez-y, et il vit une misère, zon perichut de l'Echeret. Perichut de l'Echeret, ça veut dire, voilà ce qui est arrivé. Lorsque la persécution s'est aggravée, les Hébreux ont décidé de ne plus avoir d'enfants. C'est-à-dire de se séparer de la femme pour ne plus avoir d'enfants, puisque le sort des enfants était perdu à l'avance. Kemo Shenema, comme il est dit, Vaïa Elohim et Sene Israël, Vaïda Elohim. Et Dieu vit les enfants d'Israël et sut ce qu'il se passait. Ensuite, Vaïra Malenu, et notre père, Elou Avani, il s'agit des enfants qui étaient déjà nés et qui étaient dans le cas d'être jetés dans le Nil. Et moi je n'ai marre, comme il est dit, que la Benaïdou, tout garçon qui naîtra à Yorah Tachichou, vous le jetterez dans le fleuve, mais que la Batechayoun, et chaque fille, vous la laisserez vivante. Bon, on a déjà parlé de cela. C'est cette stratégie qui consistait à détruire l'identité d'Israël, mais à s'approprier cette identité par le biais des. des femmes qui engendreraient pour les élites. Mais ça a tenu une autre oppression vers des hacks. Des hacks, c'est-à-dire qu'on est entré dans un temps. Hack, ça veut dire le fait d'être, de ne plus avoir de temps, d'être soumis à la pression du temps. C'est-à-dire à chaque seconde, c'était ou la vie ou la mort. Des hacks. Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps, il faut prendre une décision d'urgence. Que moi je n'ai pas de sursis, il n'y a plus de façon, plus de temps de façon. Que moi je n'ai pas, comme il est dit, le temps va être à la race sur une traîne, une race montable, et j'ai vu l'oppression dans laquelle il se trouve. Ici, la Haggadah cite les enseignements du Midrash sur les versets qui éclairent chaque partie des versets généraux qui décrit le processus. Mais tout ça, vous aurez à étudier dans la Torah elle-même. De nouveau, un verset général. Et Dieu nous a fait sortir de l'Égypte par une main forte et un bras étendu, dans une grande terreur, dans des signes et des miracles. Et Dieu nous a fait sortir de l'Égypte, pas par l'intermédiaire d'un ange, mais d'un Sarah. C'est un autre nom de Malach, c'est le mot général pour dire l'ange. L'ange, en hébreu, ça veut dire chargé de mission, Malach. Un Malach, c'est celui qui est chargé d'une Melacha. Et puis, il y a différentes catégories d'anges, je ne sais pas si vous parlez de ça aujourd'hui, on n'a pas le temps. Alors, c'est toute une chorma pour elle-même, dans laquelle les modèles ne font strictement rien. Enfin, il y a une catégorie qu'on appelle Sarah. Sarab, c'est littéralement, le mot ça veut dire brûler, Israf. Disons par exemple, l'image qu'on peut employer, un ange de feu. Ça veut dire une volonté de Dieu qui se réalise à travers ce que représente le feu dans le monde concret, c'est-à-dire la misérabilité, la rigueur. Et en français, on traduit séraphin. Mais vous voyez à quel point le mot a changé de sens. Un séraphin, c'est un petit angelot, plus gentil, plus mignon, alors que le sarab, c'est un ange terrible. Vélo a été chagrin, ni par un envoyé. Et a été malach en général, sarab, c'est peut-être le vide malachim, ou a été chagrin, un envoyé sévère. Et ça veut dire que Moïse lui-même n'aurait pas pu faire sortir les Hébreux si ce n'est pas Dieu lui-même qui était intervenu. C'est bien. Le loi de l'Eshaïa, ça concerne Moïse lui-même. Et là, à Kodosh Baruch Hu, Birbodo Vatmo. Mais Dieu par lui-même. Chenema, ainsi qu'il est dit, vers Avarti, vers Israël. Je passerai dans le pays d'Égypte, Balaïla Azé, en cette nuit-là, et Keki Kolbecho, vers Israël. Et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, mais Adam Adéma, depuis l'homme jusqu'à la bête, ou Proléloquem Israël, et surtout les dieux de l'Égypte, et Seshpatim, je ferai des j'exercerai mon jugement, Ani Hachem, de moi, Adam. Et alors qu'il est Israël, je passerai dans le pays d'Égypte, Balaïa, en cette nuit-là, Ani Velomala, moi et pas un malade. Veiketi Kobecho, Veret Israël, Ani Velosara. Et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, moi et pas un sarab, pour le loquer Israël et ses chatim, et j'exercerai mon jugement sur tous les dieux de l'Égypte, amis de Oshamia, moi et pas un envoyé, dans la Agada Shonal de l'Amis de l'Oshamia. Enfin, tout ça devrait être étudié assez en détail, mais enfin, je ne sais pas trop.
Oui, c'est pas de la bonne, je comprends pas, vous disiez que. Il fera un jugement au Dieu, puisque ça veut dire quoi?
Non, ça veut dire que même les forces naturelles que les Égyptiens considéraient comme leur Dieu seront bouleversées. Ani Hachem, Ani Uvelo Acher, c'est moi Hachem lui-même, Ani Uvelo, c'est moi qui suis celui-là, Velo Acher, et personne d'autre. Bon, vous comprenez bien que ces textes, il faut les étudier. Mais pour le moment, je vous les lis en survol.
C'est déjà c'est avant l'arrivée de Jésus-Christ. C'est déjà une affirmation avant l'arrivée que ce n'est que Dieu qui peut sauver et personne d'autre que lui-même. C'est un avertissement.
Oui, non, mais vous ne pouvez même pas utiliser cet argument qui va de soi. Ça va de soi, ce que je dis là. Toute la Bible est contre ce mythe. Mais je vous ai dit souvent, on ne peut pas le donner qu'une passion. La foi chrétienne, c'est une passion. Enfin, je ne veux pas exagérer, mais enfin, c'est de l'ordre de la paranoïa. Alors, on discute avec un paranoïa. Et vous remarquez ça. J'ai encore d'ailleurs énormément d'amis chrétiens qui sont non seulement normaux, mais géniaux, dans tout ce qui est conduite de la vie. Des hommes de haute culture. Dès qu'on touche au problème religieux, surtout avec un juge qui connaît la vie, c'est vraiment de la paranoïa, c'est le délire. Alors on ne peut pas discuter. Et c'est extraordinaire parce qu'ils ne sont pas fous dans le reste de leur existence, c'est des gens normaux. Mais sur le problème religieux, c'est la folie. Le délire, en fait, c'est le mot précis. Par exemple, j'ai cité une fois cet argument il y a très longtemps, et à un théologien chrétien, je vais vous dire le raisonnement, ça m'a resté dans la mémoire, le raisonnement qu'il m'a fait pour nous montrer à quel point c'est de la paranoïa. Vous savez que c'est de la paranoïa. Effectivement, c'est la preuve que Jésus-Christ est vraiment Dieu, puisque toute la Bible dit que Dieu ne donne sa gloire à personne d'autre que lui. Or, il a lui a donné, c'est que c'est lui. Vous voyez le raisonnement? C'est vraiment la paranoïa. Donc vous voyez bien qu'il est lui-même. Et si un jour vous faites la médecine ou la psychiatrie, vous étudierez ce phénomène. C'est le raisonnement paranoïaque. Enfin, en général, l'expérience mystique est un peu de cet ordre-là. Okay? Si elle ne dispose pas d'une sagesse, savoir de quoi elle parle. Okay? Cette espèce de mystique psychologique qui n'est pas éclairé par une connaissance, une révélation de... Vous comprenez ce que je veux dire? Cette espèce de mystique qui est tout simplement la vie intérieure un petit peu détraquée. Et bon, oui, à côté de la réalité. Et alors, qu'elle prenne une forme religieuse, pas une forme religieuse, c'est du délire. Vous comprenez ce que je veux dire? Et alors, vous verrez que c'est le mécanisme du... Vous savez, un paranoïaque, il a un raisonnement infaillible dans sa propre cohérence. Mais vous ne pouvez pas trouver la faille. Il faut des électrochocs. Enfin, on trouve la faille, bien sûr, mais vous ne pouvez pas arriver à discuter avec lui, parce que la phrase qui suit, les mots n'ont pas le même sens, et puis n'importe quoi que vous direz, ça va nourrir sa névrose, et puis des fois c'est une psychose, c'est encore plus grave. En général, méfiez-vous des gens qui ont cette tendance au raisonnement mystique. Ça veut dire que derrière, il y a quelque chose de détraqué, et puis il faut arranger ça. Bon, maintenant, le mythe chrétien, la foi chrétienne en bloc, c'est une paranoïa fixée sur Israël. C'est la maladie des Ahus. Vous étudierez dans les Midrashim. Bon. Mais en tout cas, l'intention des versets de la Gada, c'était pas du tout cette affaire-là. Alors, on vient au problème, bien très bien. Avec une main forte, Zoa de verre, c'est la grêle. De verre, c'est bien la grêle, la peste. Hein, la peste, barra de la grêle. De verre, Kemoshnema, une parmi les plaies. Comme il est dit dans le verset qui raconte, les versets qui racontent tout ça, je vous avais dit de lire tous les premiers chapitres de l'Exode jusqu'à la fin des Chevaliers. Okay? Inei Yadachem, voici la main de Hachem, Roya, va se dévoiler, Benikneha, contre ses troupeaux, Hachem Bassadé, qu'il y a dans le champ, Bassoussim, les chevaux, Hamourim, les ânes, les Gemalim, les chameaux, Babakar ou Basson, le gros bétail, le petit bétail, Dever, Kaved, Méo, une épidémie de peste lourde. Je crois qu'on le traduit épizootique. Oui, c'est un mot barbare qui signifie la même chose. La peste chez les animaux. Ou les oies en étouillant, et par un bras étendu, Zoachere, c'est le glaive, l'épée. Kemoshnema, comme il a dit, le harbo, chelufa, de yado, netuya, à l'Yerushalayim. Bon, là, je ne peux pas vous expliquer ça, sinon, sous forme de quelque chose qui va vous paraître comme un mystère, il y a une descente d'êtres célestes, je ne sais pas comment on peut dire cela, qui ont pris l'apparence de guerriers, et le chef de l'état-major de cette armée d'en haut avait l'épée désignant qu'il faut prendre le chemin de Jérusalem. Bon, un jour les événements recommenceront, ou est-ce que on en fait. Ou de Montréal à l'autre. Hein? Bah, si on étudie, on comprend. J'exagère, enfin je vous dis ça en quelques mots. C'est une armée d'anges qui est descendue sur terre, sous l'apparence humaine, pour faire la guerre contre l'armée égyptienne. C'est resté dans la mémoire des Égyptiens d'ailleurs. Je ne sais pas si vous savez que la guerre de 48 a été gagnée contre les Égyptiens, parce que, vous avez entendu parler, ils étaient persuadés que l'armée des anges avait redébarqué, et puis alors ils ont eu tellement peur qu'ils sont à Fallujah. Vous rappelez tout ça? Ils étaient même persuadés qu'ils seraient avec la bombe atomique.
Ils étaient même derrière
les armes israéliennes. Oui. Alors vous voyez que bon, les Israéliens n'ont rien vu, mais les Égyptiens ont vu. Bon, je referme la parenthèse. Enfin, vous retrouverez la référence du verset et vous verrez de quoi il s'agit. C'est si la Gada l'a mis là, c'est pour que ce souvenir reste jusqu'à la fin des temps. Et un coup ça recommence, ne vous impressionnez pas. Ou de Morad Adol. Et dans une grande douleur, Zo Dilou Shekhina. C'est le dévoilement de la Shekhina. La Shekhina s'est dévoilée en Égypte, et tout le monde a été pris de peur. Et mon Neymar, comme il est dit, oh, est-ce qu'il est arrivé quelquefois? Et là, toujours on cite des versets, vous avez la référence, quel? Est-ce qu'il est arrivé quelquefois? Anissa Elokim Navo la Kahatlo Goy Mikerevo. Est-ce qu'il a pu arriver cela, qu'un Dieu intervienne? Un Dieu, comme les dieux auxquels croient les peuples, un Dieu intervienne dans l'histoire pour prendre une nation du dedans d'une nation. C'est-à-dire les Hébreux et les Égyptiens étaient mélangés. Et pour faire sortir les Hébreux et les Égyptiens, il fallait prendre une nation du dedans d'une nation. Fait. Il y a aussi d'autre part, c'est un peu le problème que nous avons aujourd'hui. Les Juifs sont à l'intérieur des Goïms, nation à l'intérieur d'une nation. Deux choses. Premièrement, parce que les plaies frappaient l'Égypte, elles touchaient les Égyptiens et pas les Hébreux. Et c'est ce qui finalement a pu faire comprendre à la mentalité égyptienne, à la fin des plaies, qu'il y a une volonté qui agit, et non pas des phénomènes surnaturels mais impersonnels. Parce qu'il y avait un choix, il y avait un tri. Par exemple, par la plaie qui frappait les troupeaux tombés, elle touchait les troupeaux des Égyptiens et pas les troupeaux des Hébreux. Bien que lorsque par exemple, la plaie des ténèbres, il y avait des ténèbres pour l'Égyptien, à côté un Hébreu, il n'y avait pas de ténèbres. Donc c'était pendant très longtemps, les sorciers des Juifs disaient c'est pas grave, c'est le bouleversement naturel. Surnaturel, mais dans l'ordre naturel. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce Dieu de la volonté libre dont parlent les Hébreux, ça n'existe pas. Tout ça, c'est Moïse qui est un grand sorcier qui déclenche des cataclysmes, il faut t'impressionner. Jusqu'à un certain moment, ils ont été obligés de se rendre compte qu'il y avait une volonté libre, intelligente, qui intervenait, puisqu'il y avait une distinction entre les Hébreux et les Égyptiens. C'est clair? Gilou Shekhina. Et troisièmement, c'est encore cette image de l'accouchement. C'est-à-dire, Israël est à l'intérieur de l'Égypte comme un peuple à l'intérieur d'un autre peuple qui le porte en gestation. Les maçons, donc les preuves, les autos, les signes, les miracles, c'est différents termes de la Bible pour dire ce qu'on dit en général en français, miracles, prodiges, milchama, la guerre, biatranaka, bras étendus, voire les douillards, d'un moraï maridoni, grande terreur, kéro lachem, asalachem, machem elokechem, et misraïm l'anecha. Comme tout ce que Hachem, ton Dieu, a fait pour toi en Égypte, l'anecha, devant tes propres yeux. Ou autot, et par les signes, vers Marté, c'est le bâton dont disposait Moïse pour déclencher les plaies, Kemosh Nehema, Vetamate Azeh Karbi Alecha, Hachem Ta'aseh Bo Etaot. Et ce bâton, tu le prendras dans ta main et tu feras les signes avec toi. Alors, Mofri, c'est Adam. Et les produits, c'est le sang, Kemojenema, comme il est dit, les Natati Mofri, Bachama et Mubaret. Et je mettrai des prodiges dans le ciel et sur la terre, d'âme vaille, je t'y ouvre franchement. Du sang, c'est pas la première plaie où l'eau s'est changée en sang. C'est les signes par lesquels Moïse devait avertir les Égyptiens de laisser sortir les Hébreux et ensuite il y a eu les plaies, quand ils ont reculé. C'est-à-dire, il y a eu des pluies de sang, de feu et de fumée. Timrod Racham, c'est les. Bien. Alors, ensuite, la galaxie d'autres Midrashim, d'avant après. Autre enseignement, Beatrazaka Ashtaïm, par la main étendue, il y a eu deux plaies, Bilvoir et Touya Ashtaïm, par le bras étendu, deux plaies, Moragado, la grande terreur, deux plaies, les signes, deux plaies, Moftim Ashtaïm et les Mirak Ashtaïm, c'est-à-dire les dix plaies. Bien. Alors ensuite, on arrive au moment de l'intervention par les dix plaies. Mofet, ça veut dire un miracle qui comporte une preuve, un miracle intelligible. Un signe, c'est un signe incompréhensible, tandis que Mofet, c'est un miracle. Par exemple, en hébreu moderne, pour dire une preuve par un raisonnement, on dit Mofet, une démonstration. Elo et Fermako, chez les Diakodosbaoko, la Mitzrim, les Mitzraïm, Belouet. Voici les dix plaies que Dieu a fait venir sur les Égyptiens en Égypte, et les voici. Alors, d'autres plaies ont été traduites dame, le sang, c'est par des arbres, le pays, c'est rempli de grenouilles. C'est des grenouilles, hein. Kinim, des gamines, Aro, des bêtes sauvages, des vers. La peste, Shechim. Là Ken, Shechim, c'est le galère. Barad, la grève. Arbe, les sauterelles. Roche, l'obscurité. Makad, de Choros, la mort des premiers. Et c'est en fin de compte. Déjà vers la cinquième plaie, et lorsqu'a commencé déjà à se percevoir qu'il y a une volonté qui intervient, alors les sages de l'Égypte commencent à dire Etzba Elohim, c'est le doigt de Dieu qui se fait voir. Mais c'est au moment de la mort des premiers-nés qu'il y a eu l'affolement général et que le pharaon a laissé sortir le peuple. Alors, je vais reprendre un petit peu en arrière pour que je vous montre les différents rites dans le Seder jusque-là. Alors, vous avez d'abord le Kiddush et, à mon avis, la première coupe. Est-ce que vous voulez indiquer à quel moment on remplit la deuxième coupe? Oui. À quel moment on remplit la deuxième coupe? Vous l'avez noté ou pas?
C'est avant le Magid, toujours avant le
Nishtana. Avant le Nishtana, ok. Juste avant Manishtana, on remplit la deuxième. Alors ensuite, le passage de Vehish et Amdala Rotenu, et j'espère que vous apprendrez à le chanter. On a l'habitude en Israël de chanter un air chassid. Vous le connaissez?
Oui.
Alors on recouvre les matzot qui ont été découvertes à l'Armahania, on recouvre les matzot et on dit Vehish et Amda avec le verre en main. Okay. Ensuite, après Vehi, on repose le verre et on redécouvre les matzot. Notez tout cela si ce n'est pas indiqué dans vos. C'est indiqué. Et alors, lorsqu'on arrive à l'énumération des dix plaies, je vais expliquer les deux minadim chez les Sfaradim et chez les Ashkenazim. D'abord chez les Ashkenazim. Okay. Le chef de table prend sa coupe près de lui et avec le petit doigt. Au moment de chaque mot d'âme, c'est par des arbres, enlève une goutte de vin. Fait tomber une goutte de vin sur le. La souris. C'est le rite. Le rite Sfarad est un peu différent. Et on met une cuvette, on met une casserole, enfin une grande assiette, une cuvette, et puis le père prend sa coupe et la mère prend une carafe d'eau, et en même temps, on verse un petit peu chaque fois, mais toute la coupe et toute la carafe d'eau pour le mélanger. Je vais vous expliquer pourquoi ils ont. Et ensuite, cette coupe complète doit être jetée par la fenêtre. Pas la coupe, mais ce qu'il y a dedans. Et ensuite, la coupe doit être remplie de nouveau, immédiatement, par le chef de table. C'est clair ? Bon. Alors, d'une part, je pense que ce rite existait aussi avant, de la même manière, dans les communautés ashkénazes, parce que ça vous rappelle ce qui se passe au moment du kiddouche. J'en profite pour vous expliquer. Celui qui dit le kiddouche ne remplit jamais la coupe complètement de vin, il laisse un petit peu pour remplir avec de l'eau. Okay. Parce que le vin rouge sur lequel on fait le kiddouche représente la midata d'huile, et on ajoute un peu de midata chesed qui est représentée par l'eau blanche. Et, alors c'est la raison pour laquelle c'est le père qui remplit le vin rouge et la mère qui remplit avec l'eau. Ça c'est la signification. Symbolique, enfin pas symbolique, pas de signification du rite. Mais, et voilà d'où ça vient du point de vue de la halakha. C'est ce qu'on appelle la mezika, mizok. Bon, au temps des Hébreux, le vin était un vin très épais. Comme il y a eu aussi chez les Grecs, par exemple, le vin était très concentré, c'était du concentré de vin, et on préparait la boisson en coupant d'eau. Et ça s'appelle mzokos, ça veut dire faire la mesika, c'est-à-dire mettre l'eau dans le vin, de telle sorte d'en faire du vin. C'était du super vin, enfin, j'avais bon, comprenez les deux. Alors donc, le rite est resté en souvenir de ça. Bon, ce qui s'est produit, c'est que dans énormément de pays ashkénazes, le vin était très rare. Alors c'est la raison pour laquelle on économisait, et au lieu de jeter la coupe entière, on jetait une goutte de. C'est pour que les valeurs soient complémentaires. Bien. Alors ça c'est pour le premier rite. C'est-à-dire la. Je pense que chez les Ashkenazim, c'est chacun des assistants qui le fait. Tandis que chez les Sfardim, c'est uniquement chez le chef de table. Alors, il y a ensuite un passage que je vais vous expliquer, c'est de la Kabbalah. Rabbi Yehuda Elotem Bahem Simanim. Rabbi Yehuda a donné un signe, Simanim, enfin, dire, bon, un signe concernant les plaies, Tetzach, Hadash, Be'achav. Donc vous avez Tetzach, Adash Be'achat. Vous avez là les initiales de Dam Sephardéa, les initiales des différents mots. Enfin, je peux vous expliquer en tout cas une intention simple, c'est qu'il y avait trois groupes de plaies, les trois premières, les trois suivantes et les quatre dernières. C'est-à-dire le signe c'était groupé comme ça. Bon, la signification de ces mots-là, je ne peux pas vous la donner, c'est la Kabbalah trop compliquée. Allons-y. Ici, il y a un thème important que je vais expliquer assez rapidement. Je vous avais dit tout au début. Dans la fête de Pessah, il y a 7 jours. Le premier jour, qui est un jour de grande fête, c'est la commémoration de la sortie d'Égypte à proprement parler. Le 7e jour, qui s'appelle Shevi'i, chez le Pessah, c'est la commémoration du passage de la mer Rouge. Alors, de la même manière qu'il y a eu 10 plaies en Égypte et 10 miracles en Égypte, il y a eu aussi 10 plaies et 10 miracles au passage de la mer Rouge. Et ici, nous avons une série d'enseignements qui montrent que le miracle qui s'est fait au passage de la mer Rouge est beaucoup plus important que le miracle d'Égypte lui-même. Je vais d'abord lire les textes et ensuite je vous donnerai quelques explications à ce sujet. Rabbi Yosef Galilée Omer. Rabbi Yosef du Galilée, le Galiléen, ça veut dire habitant du Galilée, disait Minaïnata Omer, d'où pouvons-nous dire, chez la Kouamitri Memitraim Esser Makot, que les Égyptiens ont été frappés en Égypte de 10 plaies. ורב הים לקו 50 מכות מכסיו המרוש, זו הייתה פרפה דה 50 פלי, אין קומפרנט לברסי, במצרים מה הוא אומר? אני אגיד, כסתדי לברסי, בירוע החתומים, לסער את רשיף, הוא אפלי חכתום מנושא, זה בהקפיקים, זה כסת חכתום, סטימין לברסי, ודאייר יאי לפרמר העניון לליגרה קונט ישראל, חכתום, זה הוא דירה, זה
סודן,
זה סודן, זה סודן, זה סודן, זה c'est la capitale du Soudan, okay. À l'époque tout à l'heure. Et alors, Khartoum, autant Khartoum, ça se dit en Égypte, au temps du pharaon, Khartoum, il y avait l'Académie des sorciers de l'Égypte. Et alors les Khartoumim, c'était les étudiants de la médersa de Khartoum. Donc j'ai traité cette année, j'ai frappé par le fait que c'est précisément dans cette ville même que ça s'est de nouveau reproduit le conseil de la Ligue arabe contre Israël pour savoir quelles mesures prendre pour empêcher Israël de sortir du Nil. Okay. Bon, et alors, Khartoumim, ça veut dire les sorciers de l'Égypte. Mais vous pouvez traduire les sages parce qu'ils étaient très intelligents au fond des français. Alors là, on voit Khartoumim, quelques paroles, les conseillers, disons, de Pharaon. On dit à Pharaon, ok.
C'était la magie noire.
Il y avait les deux. Et il y avait aussi l'autre. Et on dit au Pharaon, Etzba Elokimi, c'est le doigt de Dieu. Et Alayama au mer, or, à propos de la mer, du passage de la mer rouge, qu'est-ce que le verset dit? Bayar Israël et Ayar Avedola. Et Dieu vit, au passage de la mer rouge, la grande main, Asherata Elokim, que Dieu a fait. Et le peuple eut peur, non, craignit Dieu, Hachem, Vayamin, Vachem, Moshe Ardo, et il eut foi en Moïse, en Dieu et en Moïse son serviteur. Mais quel est le raisonnement? Si le verset dit un doigt en Égypte, la main sur la mer, c'est que l'événement miraculeux du passage de la mer Rouge est cinq fois plus grand que celui de Dieu. Après, je vais expliquer le thème général. Donc, fin de cette pisca, Kamalakou, combien ils ont été frappés, Beetzbar avec le doigt diplé, et Mormeata, et on conclura, en Égypte, la coup est sur ma côte, en Égypte, ils ont reçu diplé, Ralayam Lakou, Khamishima. Ravi Lezer va aller beaucoup plus loin. Ravi Lezer dit, Minaïn, Shekol Makaou, Maka, d'où savons-nous que chaque plaie, chez Evi, Akadovaoukou, à la vitrine de Mitzraïm, que Dieu a fait venir contre les Égyptiens en Égypte, Haïta Mako, chaque plaie en Égypte, c'était quatre plaies.